Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Pascal Quignard, qui publie Sur l'image qui manque à nos jours, chez Arléa. Deux vicaires temporels très différents sont à la disposition des mortels. L'image, le mot. L'image voit ce qui manque. Le mot nomme ce qui fut. Derrière l'image, il y a le désir, c'est le fantasme le jour, c'est le rêve la nuit, c'est l'oracle la veille. De même que derrière chaque biographie humaine, il y a l'histoire, de même que derrière le nom propre de chacun d'entre nous, il y a un ancêtre, de même, derrière chaque mot, il y a un perdu. En attendant le 10 septembre, Pascal Quignard, la publication du 9e volume de Dernier Royaume, que vous avez intitulé « Mourir de pensée », un livre de poche chez Arléa, sur l'image qui manque à nos jours. Le même éditeur d'ailleurs, où l'an dernier, vous aviez dans la même collection publié un autre petit livre, Le son de solfège et de piano, ce qui était le texte d'une conférence que vous avez prononcée trois fois, à la BNF, à la Grasse et à Guéret. Et dans cette conférence, vous commencez par dire que vous devez tout à Louis-René Desforest, qui vous a publié en 1968 dans l'éphémère et fait entrer comme lecteur aux éditions Gallimard, c'était en 1969, au comité, au fameux comité dont vous avez fini par démissionner pour retrouver l'étude, l'étude qui est pour vous la plus concentrée des passions. Dans « Leçon de solfège et de piano », où vous commencez par parler de Desforest, vous en arrivez vite à Julien Gracq, qui n'a pas été très gentil à l'endroit de vos grands-tantes. Vous racontez ça. Vous dites par exemple qu'il faudrait écrire à la façon de Plutarque un parallèle entre Desforest et Gracq. J'aimerais bien que vous l'écriviez, ce parallèle.
C'est émouvant pour moi de parler de ce que vous dites et de parler de Louis-René Desforest, parce que, bien sûr, j'ai écrit le Maurice Blanchot avait écrit le premier, j'ai écrit le second essai sur Louis-René Desforest, donc je lui ai, de son vivant, je lui ai marqué l'hommage et l'admiration.
C'est le vœu de silence. C'est ça. Un livre qui a été repris il n'y a pas très longtemps chez Galilée.
Chez Galilée. Mais, dans le même temps, ce n'est pas de la culpabilité, mais je trouve que je n'en ai pas fait assez en mémoire de cette œuvre très particulière qui s'est, d'une part, soudain, ça m'impressionne toujours, arrêtée d'un seul coup. Et les écrivains qui s'arrêtent m'impressionnent parce que je pense que c'est presque plus proche, ce silence brutal et non motivé me paraît presque plus proche de la littérature que le fait d'écrire beaucoup, ce qui est finalement mon cas, alors que je ne m'éloigne pas de mon propre silence en écrivant, et je ne m'approche pas de la société non plus en écrivant, mais il y a une traîne toujours l'idée d'une impureté, de même que le sage taoïste prétend terminer ses jours aussi nus qu'à l'instant de sa naissance, j'ai l'impression toujours que je vais mourir beaucoup trop habillé de mots par rapport à ce qui aurait dû être. Mais le parallèle, je ne le ferai pas entre Grac et des forêts, parce que il y avait dans des forêets quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'intégration sociale et qui, dans ce cas-là, ne pouvait pas se mesurer avec quelqu'un qui, même dans ses défensives, était quand même extraordinairement proche des mouvements littéraires de son époque. Mmh.
Je crois que des forêts n'aimait pas beaucoup Rome, Grac non plus, d'ailleurs. Et je ne sais pas s'il a lu Terrasse à Rome, votre livre qui a été publié chez Gallimard l'année même de sa mort, en 2000.
Louis-René Desforest allait plus loin que ça. Il avait une telle détestation des souvenirs de pensionnats religieux et des cours de latin au collège de Saint-Brieuc, que c'est Saint-Brieuc, je crois, je ne sais plus, quelque chose comme cela, qu'il ne lisait pas les livres de moi où il y avait du latin, ce qui en retirait un certain nombre. Il avait une véritable allergie. Ce qui me paraît tellement étrange pour moi, qui n'est pas une passion ni pour la religion chrétienne, ni pour la Rome antique, mais qui est une passion pour l'origine souterraine au sein de tous les mots français, du grec, du latin et du sanskrit. Je ne vois pas comment on peut scinder notre langue et le mouvement, l'affluence de notre langue de ces fantômes qui l'habitent constamment. Mais je ne discute pas ces choix.
Ouais. Et ces fantômes sont encore très présents, mais je le dirai peut-être plus tard, dans le 9e volume auquel je faisais référence tout à l'heure, de Dernier Royaume, Penser la mort.
Ouais. Oui, là, ce 9e volume, je suis quand même très heureux que vous l'évoquiez, parce que j'avais conçu un projet curieusement un peu océanique, et dont le cœur était un livre que j'avais écrit à l'hôpital et qui s'appelait « Vie secrète », et qui est le tome 8 dont j'avais pensé qu'il serait le nucléus, le noyau de cet ensemble. Or, maintenant, j'en suis au tome 9, donc la Vita Nova a ressurgi, et de même qu'il y avait une nouvelle manière de vivre dans « Vie secrète », il y a dans « Mourir de penser » une nouvelle manière de penser, qui est, j'en arrive, les livres précédents, La barque silencieuse marquait la mort, Les désarçonnés marquaient la dépression nerveuse et l'atterrement, l'affaissement par terre. Et là, je peux, comment dire, remonter sur un cheval, si j'ose dire.
Quelle est votre relation avec un livre qui existe déjà, qui a été fabriqué, envoyé à la presse, mais qui n'est pas disponible pour les lecteurs, qui n'est pas encore en librairie?
Je crois qu'il est encore en moi. On ne devient veuf. On est débarrassé, le cerveau n'est débarrassé de la totalité du livre, de la totalité de la substance du livre, que lorsque les autres l'ont pris, vous l'ont arraché des mains, en parlent de façon merveilleuse ou atroce, peu importe, mais lorsqu'on en est dépossédé. Tant qu'on n'est pas dépossédé, il reste dans la pensée, mais enfin, il s'éloigne quand même. C'est peut-être ce que les théologiens appelaient les limbes. Il n'est ni vivant ni mort. Il traîne, il attend son enterrement.
On y reviendra, mais pour l'instant, parlons de ce livre qui existe bien en librairie, Sur l'image qui manque à nos jours, publié chez Arléa, donc en poche, dans la collection Arléa Poche. Et je parlais de Rome il y a un instant à propos de Desforest. Rome est là, aujourd'hui, dans cette autre conférence, puisque le livre reprend à son tour une conférence, cette fois sur la peinture antique, et qui a été, elle aussi, prononcée trois fois.
Oui. Une fois au laboratoire d'archéologie de la rue d'Ulm, une fois au collège iconique de Serge Tisseron, et une fois dans un cercle de philosophes au musée de Lille, au musée des Beaux-Arts de Lille. Je dois remercier tout d'abord Anne Bourguignon, qui est une jeune éditrice extrêmement cultivée, qui m'a proposé, dans Arles à Poche, donc, de reprendre des conférences. Je n'aurais jamais spontanément eu l'idée de publier des conférences parce que les conférences se rêvent oralement. Ce ne sont pas pour moi des livres. Je ne dis pas que je n'ai pas pris soin de les relire et de retirer toutes les scories possibles, mais elles ont forcément une fluidité, une précision qui n'est pas de l'ordre concentré, abrupt, qu'a pour moi la littérature. Donc, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à accepter cette proposition. Ça me permet, lorsque, disons les choses très simplement, lorsque la mort approche et que l'on a réussi à penser quelques petites choses qui ne peuvent pas entrer ni dans un roman, ni dans « Dernier royaume », dans mes livres, qui vous a donné l'occasion quand même, parce que la passion vous a pris d'être sur certains points très érudits et très précis dans la compréhension de quelque chose, c'est bien quand même de le léguer d'une manière ou d'une autre. Là, les archéologues et les psychanalystes sont très intéressés par mes travaux sur l'image antique, qui est une image en effet très très différente que de l'image contemporaine, bien sûr, mais même européenne ou médiévale. Et donc, vous avez cité tout à l'heure Plutarque. C'est à partir d'un texte, une méditation de Plutarque extraordinairement féconde et profonde, que j'ai réussi à m'approcher de... Je vais faire un détour, Alain, si vous me permettez. Dans les années 60, lorsque André Malraux censurait tout, il censurait un écrivain qui s'appelait Georges Bataille. Il se trouvait que j'étais libraire, vendeur en librairie, je veux dire, à Dieppe dans ces années-là. Donc je pouvais acheter ou lire les livres de chez Pauvert qui étaient interdits, les romans de Bataille, sous le nom de Pierre Angélique ou d'autres, ou bien le dernier livre, et c'est là où je veux en venir, et j'étais extrêmement influencé par l'œuvre de Bataille, comme Desforest l'a été lui aussi. Très, très impressionné par le dernier livre de Bataille qui s'appelait L'Arme des Rosses, et où il faisait un tableau de la représentation des images de la sexualité. Dans ce livre, une phrase très étonnante, qui n'est qu'une parenthèse d'ailleurs dans le texte de Bataille, disait « Oh, je passerai à la peinture romaine. C'est la même chose que les Grecs. Je passerai directement au Moyen Âge. » J'aime bien remplir les parenthèses et j'aime bien faire ce qu'on m'interdit de faire. Donc je me suis engouffré dans la peinture romaine, qui est, là il faut donner tort malheureusement à Georges Bataille, qui est très différente de la peinture orientale, grecque ou égyptienne, ou même étrusque. Et il y a une mélancolie particulière qui d'ailleurs a anticipé certainement l'angoisse et la détresse et la mélancolie du christianisme, mais qui a puisé directement dans ce cas-là dans Rome. Et c'est ça que j'ai fouillé. Je me suis mis à aimer énormément ces images, ces fresques. Comment vous expliquer ce que j'aime, qui d'ailleurs peut-être parce que Bataille, dans le fond, était quelqu'un qui aimait la peinture expressionniste, la peinture surréaliste, la peinture de Goya, la peinture dramatique. Or, les fresques romaines ne le sont pas du tout. Et longtemps, j'ai écrit d'ailleurs un livre donc, pour remplir cette parenthèse qui s'appelait, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait « Le sexe et l'effroi ». Mais je ne suis plus tout à fait d'accord avec ce livre, donc j'ai écrit ce livre sur l'image qui manque. Comment essayer de faire sentir? Je prendrai, si vous voulez, pour ceux qui voudraient visualiser un peu ce que nous disons, les images très connues sans doute de Médée. Il ne reste que trois fresques romaines de Médée. Alors on voit... Le propre de la peinture romaine, c'est que l'image de l'action, là, une femme qui va tuer ses enfants, n'est jamais montrée. On ne montre jamais l'image, on ne représente pas. Ce n'est pas du tout, les fresques ne représentent jamais la situation. C'est toujours l'image d'avant. Il y a l'image qui manque, et il y a l'image d'avant qui est montrée. Alors on voit des enfants qui jouent à l'astragale, un précepteur méditatif qui les regarde jouer. Et sur la droite, c'est important parce qu'elle regarde vers la gauche, donc dans le mouvement sinistre pour la peinture romaine, on voit une femme merveilleusement belle, qui a une épée entre les mains, mais qui rêve, qui médite. Tout ça est fait dans une lumière magnifique. Si vous voulez, ce que je trouve extraordinaire dans les fresques romaines, c'est qu'elles refusent l'anecdote. On est dans de la figuration qui ne figure pas, qui reste en l'instant d'avant et qui ne figure pas l'image. Donc j'ai fouillé, c'est ça ce livre, les raisons pour lesquelles cette peinture était ainsi. Et je suis arrivé, grâce à Plutarque, à quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est là où notre propre peinture a puisé le fait qu'elle est devenue rectangulaire. Si vous prenez la peinture chinoise, vous avez des centaines de mètres d'images et vous ne pouvez pas la voir panoramiquement. Les prêtres, je vais parler un tout petit peu latin, Alain, les prêtres romains, les augures, tiraient les auspices. Auspices est un mot qui se décompose en aves et spicio. Aves, les oiseaux, spicio, je regarde. Je regarde les oiseaux. Ils prenaient un bâton recourbé qu'ils appelaient litus et ils dessinaient dans l'air un carré qu'ils quadrillaient. Ce carré, le carré en latin se dit templum, et c'était bien avant que les temples, comment dire, se projettent sur la terre et deviennent en pierre. Le temple, c'est un carré, une image, une page, si vous voulez, une page dans l'air qui est quadrillée. À l'intérieur de cette page passaient des oiseaux qu'ils regardaient. La direction que prenaient ces oiseaux leur indiquait ce qu'il fallait faire le lendemain ou ce qu'il fallait, les décisions qu'il fallait prendre. Si jamais c'était un éclair qui tombait, c'était encore plus encourageant pour la suite des choses. Donc, la vision s'est faite, comment dire, le quadrato, le tableau est devenu un rectangle. Les peintres ont cherché dans ce cas-là, en dessinant, l'instant d'avant de ce qui allait se produire. La prévision, l'image dans ce cas-là, l'image qui me passionne donc tant et qui m'émeut tant dans la peinture romaine, ne montre jamais l'image qui manque, l'image à venir, elle marque toujours l'image du passé. Et voilà peut-être le secret de la subjugation, de la fascination où ces peintures me mettent. C'est l'instant romain par excellence, si vous voulez. C'est César devant le petit ruisseau rouge, Rubicon. C'est César qui, est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il ne va pas y aller? Et c'est l'instant où il va jeter les dés, de même que sur la peinture que j'évoquais, la fresque que j'évoquais de Médée, les enfants jouent leur sort aussi aux dés, c'est-à-dire qu'ils vont devenir les os qu'ils sont en train de faire sauter entre leurs doigts.
Il y a toujours une image qui manque dans toute image.
Dans nos vies, il y a deux images qui manquent. Il y a l'image de ceux qui nous ont fait, nous n'étions pas présents, bien sûr, parce que nous n'étions pas engendrés. Et ce tourment-là, cette coagitation-là, fait la passion de la petite enfance qui cherche d'imaginer de toutes les sortes possibles de procréation possible d'où il serait résulté. Cette image manque toujours. Et il y a l'image, bien sûr, dont la vision s'éteindra avec nos yeux et qui donc ne peut être anticipée que celle de notre mort. Et ce tourment des images qui manquent dans notre espèce en produit l'imaginaire, si vous voulez. C'est vraiment l'arrière-fond le plus profond, étant donné que, ce n'est pas pour vous, mais pour moi, je reste assommé quand je me réveille le matin et que j'ai vu apparaître mon arrière-grand-mère, des gens du passé. Je pense que tout le monde, comment dire, si j'ose dire, a dû être assommé de voir les morts ressurgir de leur sommeil. De même que sur les berceaux, les vivants croient voir les morts et disent « Ah, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. » Et aussitôt reprojettent l'image sur les tout petits nouveau-nés qui ne sont, à vrai dire, que des petites faces fripées et ridées et assez malheureuses. De même, nous, quand nous les voyons ressurgir au sein de nos rêves, il y a quelque chose là qui est de l'ordre, qui évacue le temps et qui crée en nous un... Je crois que, si vous voulez, il est plus facile de comprendre la pensée que de comprendre la rêver. Le fait que nous, que chaque jour, nous soyons réduits au sommeil pendant des heures et que des images surgissent comme ça spontanément au sein de l'immobilité et du silence, c'est quelque chose de... C'est très différent de la littérature, mais c'est quelque chose de très, très, très puissant aussi.
C'est un manque qui nous confronte à l'invisible.
C'est un manque qui fait... C'est un perdu qui fait surgir, qui rend visible du perdu aussi dans les images de ce que nous avons aimé, que nous avons perdu. Il y a là une figuration, il y a une extériorisation de ceux que nous avons enterrés ou égarés. C'est une... Les chrétiens disaient que nous étions des créatures faites à l'image de Dieu, mais en fait, nous sommes par la sexualité confrontés à une mise en image. La vraie figuration, c'est la sexualité. Nous sommes figuratifs. C'est nos pauvres corps, mais enfin, nous sommes figuratifs.
Donc les images dont il est question dans le livre, vous les empruntez à la peinture romaine, dont vous parlez en littéraire, comme vous dites quelquefois, plus qu'en historien de l'art.
Ah oui, je ne cherche pas du tout à... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je suis ainsi fait. Je me souviens d'une phrase de Gilles Deleuze qui m'avait énormément choqué. J'admire beaucoup Gilles Deleuze, ça n'a rien à voir avec un jugement. Mais qui m'avait énormément choqué, il expliquait, mais d'ailleurs Freud dit la même chose, il expliquait que c'est très important, on souffrait lorsqu'on avait du chaos dans le cerveau, qu'il était très important que la philosophie existe pour ramener un peu d'ordre dans le chaos. Et Freud disait des choses un peu semblables. Je vous avouerai que moi, laisser à l'état de chaos quelque chose m'apaise. Et que ceux qui veulent gendarmer ou mettre trop d'ordre dans les choses m'inquiètent. Donc ma façon de penser, c'est éplucher les mots, déchirer les images et les rendre les plus précises possibles, mettre tout ce puzzle sur la table, être confronté à quelque chose de... un embarras, une aporie, et cela suffit à ma joie. Je trouve que ce que je peux apporter à ceux qui me lisent, c'est la possibilité de constituer l'ordre qu'ils veulent, ou bien d'autoriser le chaos, qui finalement est le fond du monde.
La peinture romaine sort toujours d'un récit. Hein, les images dont vous parlez, que vous interprétez, renvoient toujours à un texte.
Alors c'est là où c'est plus compliqué, c'est là où plus tard que le texte que vous avez cité est si profond, ou plus tard qu'est si profond. En fait, Plutarque dit que le langage ne fonctionne que dès l'instant où il y a du perdu, et le récit ne fonctionne que dès l'instant où il y a un mort. La fin d'un récit... Le récit raconte l'histoire d'un homme à partir de sa mort. De toute manière, c'est fin et il y a une sorte de destin qui se dessine. Le récit, le roman peuvent fonctionner à partir de ce passé que l'on reconstitue. L'image, beaucoup plus proche du désir, comme l'ordre du rêve, se tient en amont de ça. L'image, elle, n'aime pas le récit. Elle fait, dans le cas de la peinture romaine, elle fait semblant d'être avant le récit qu'elle connaît, et de faire ressurgir l'indécision, l'absence de préméditation, l'instant où l'oiseau va passer de gauche à droite ou de droite à gauche, l'instant où on va sauter par-dessus le petit ruisseau du Rubicon, l'instant où l'image veut rester en amont de cela. Et au fond de nos... C'est dans le fond, comment dire... de même que les augures, exerçaient une mantique, c'est ce que la psychanalyse a repris essentiellement. Les rêves, et c'est vrai de nous, les rêves nous indiquent des désirs et des angoisses. Si l'on croit être amoureux d'une femme et qu'on ne la voit pas surgir dans son rêve, c'est qu'on n'est pas amoureux d'elle. Les images spontanées vous indiquent quelque chose de vous et de l'avenir. Elles se tiennent en amont et non pas, comment dire, par après, comme le récit peut l'être.
À la fin de la conférence, Plutarque vous vient en aide.
Oui.
Il vous apporte la preuve de ce que vous avancez au sujet de l'histoire, de l'image qui manque.
J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce texte, oui. Mais c'est un texte. Je suis très, 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 très heureux de que ce texte existe. Parce qu'il a dit quelque chose aussi sur la littérature et la mort. Et si vous prenez, je me suis rendu compte de ça en lisant le livre qui vient de paraître, un des derniers cours de Michel Foucault. Et d'une certaine manière, à la fin de sa vie, Foucault s'est trouvé aussi devant deux statuts très différents de ce qui est imaginaire et de ce qui est linguistique. Il y a quelque chose là qui se sépare complètement. Et Plutarque le décrit, là je ne peux que renvoyer au livre, le décrit dans des textes d'une précision.
Gloire des Athéniens.
Oui, gloire des Athéniens. Et il dit que pour être cru, dans un témoignage historique, il faut que la mort soit là. Ce qui était là, c'est terrible pour toutes nos histoires, ce qui fait d'ailleurs que nos biographies ne peuvent pas être des biographies, puisque ce sont des récits. Nos vies sont beaucoup plus proches de l'image, nos vies ne sont pas des récits.
La mort est là, donc, dans cette conférence sur l'image qui manque à nos jours, mais elle est là aussi dans le livre qui va paraître le 10 septembre, on l'a dit, le 9e volume de Dernier Royaume, Mourir de penser. J'aurais voulu qu'on en dise un mot ce soir parce que je ne suis pas sûr d'être fidèle au poste en septembre, quand le livre sera en librairie.
C'est vous qui ne seriez pas fidèle au poste ou c'est le poste qui ne serait pas fidèle alors?
Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire.
Je ne veux pas me prononcer. Ouais. Je ne veux pas... Non, on peut tout à fait faire le lien. La première fois, par cette simple petite histoire, la première fois où le verbe « penser » apparaît en Grèce, c'est dans un texte d'Homère. Homère, le texte a été fixé, a été écrit vers moins 750, au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et très curieusement, ce n'est pas un homme qui pense, c'est un chien qui pense un homme. Alors, Ulysse s'est complètement déguisé, il arrive sur l'île, il s'est mis avec des braises et des boues, il s'est défiguré le visage, il apparaît comme un mendiant. Il arrive à la porte de son ancien palais, où se tient un porcher, il lui parle, et sur un tas de fumier, au loin, un vieux chien, tout à coup, se dresse sur ses pattes et écrit Homère, pardonnez-moi de parler grec cette fois-ci, et puis romain, Énoïsène, Odyssée. Il pensa Ulysse dans le mendiant. Il pense Ulysse, et puis il se couche sur le fumier et il meurt. Il pense comme s'il attend de la pensée, comment dire, une fois qu'elle était récompensée, pour reprendre ces mots de la pensée, il s'effondrait, dans sa vie s'effondrait. Et au même moment, Ulysse sent que quelqu'un le perçoit dans le champ, voit le vieux chien, mais il ne veut pas reconnaître son chien Argos avec qui il a fait des chasses autrefois dans l'île d'Ithaque. Et si bien qu'il essuie furtivement une larme afin de ne pas laisser penser que Ulysse est de retour. C'est une scène assez extraordinaire. Si vous voulez, c'est un sens. J'essaie de déchiffrer la pensée pas du tout au sens d'une école philosophique ou d'une rhétorique particulière.
Vous n'êtes pas philosophe de la même manière que vous n'êtes pas historien de l'art, mais vous restez un littéraire.
Je reste un littéraire. Je reste un sans fonction. Je reste dans la place vide du littéraire, de même que chaque mot que nous employons, que nous écrivons, a besoin d'un peu de blanc et d'espace entre chacune des lettres. C'est ça qui profondément, très profondément, définit le littéraire, cet intervalle-là. Et j'essaie de montrer que la pensée, d'abord, est un sens. Qu'il y a, comment dire, même peut-être qu'il y a 4 sens de l'esprit. Il y a 5 sens du corps, il y a 4 sens de l'esprit. La rêver, on a parlé de la rêver beaucoup. C'est vraiment un sens très mystérieux, contact avec le réel, ou avec la veille, ou avec le désir. Il y a la pensée, qui là est habitée complètement par le langage acquis, qu'on a appris enfant. Il y a lire, que je différencie, vous savez combien la lecture pour moi est le cœur de ma vie. Et ce déchiffrage me paraît beaucoup plus ancien que la lecture de l'écriture. La lecture, lire, déchiffrer les chiens, les chats, quand ils sortent dans la campagne, quand ils flairent une à une toutes les herbes, tous les passages, tout ce qui a pu survenir, quand ils jettent un regard pour le soleil qui vient, pour les oiseaux, pour le merle qui chante. Il y a là toute une lecture extraordinairement. Et puis le quatrième sens de l'esprit, mais là, c'est plus l'Orient que l'Occident qui le connaît. L'Orient aime infiniment le fonctionnement avide. Vider l'esprit, c'est la méditation, c'est l'exercice, c'est le moine zen, c'est l'hindouiste qui est l'ascèse du moine du tantrisme au Tibet. Enfin, mais ça, c'est moins propre à l'Occident, même si le fait comme cela de se vider de tout et de se laisser absorber par le lieu, par la montagne, par le paysage, par le ciel, est peut-être le plus grand sens sensoriel, si j'ose dire, de l'esprit.
Penser, mourir, sont contemporains. Contemporains de la perte et frères d'armes, comme vous le disiez dans les petits traités.
Je pense que quelqu'un qui aurait eu... Je pense que oui, il y a quelque chose qui lie entre la traumatisation de l'enfance et le fait de penser. Je pense que... ne pense vraiment que ceux qui compensent une perte assez costaud, si j'ose dire. Assez costaud. Il y a... je ne sais pas quel est le fonctionnement de l'esprit de ceux qui sont heureux. Il y a l'autobiographie de Moscovici, le père du ministre, le grand intellectuel, commençait son autobiographie de façon terrible en disant « C'est une chance merveilleuse de ne pas avoir eu une enfance heureuse. » C'est peut-être ça la définition de cette perte, de cette pensée.
Sur l'image qui manque à nos jours de Pascal Quignard chez Arléa dans la collection Arléa Poche et en librairie le 10 septembre Mourir de pensée, dernier royaume 9 chez Grasset. Du jour au lendemain, Éric Boisset, Clotilde Pivat, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.